Voilà, donc vous savez que nous sommes dans le thème de la prophétie actuellement, et depuis trois messages déjà, nous avons touché à cet aspect important de notre vie d'être humain, notre vie chrétienne. La prophétie est importante. Quand je dis prophétie, c'est dans le sens effectivement d'un oracle, c'est-à-dire que Dieu annonce les choses à l'avance au travers de personnages qu'il a choisis dans sa toute-puissance pour annoncer les choses à venir. Et c'est important de réaliser que la prophétie doit tenir une place majeure dans notre petite humanité, dans notre petite intelligence, dans notre disque dur interne. D'ailleurs, Pierre dira en 2 Pierre 1, 19, elle est comme une lampe qui brille dans l'obscurité. La prophétie est comme une lampe qui brille dans l'obscurité. Le monde qui nous entoure devient de plus en plus obscur. Et c'est pourquoi, au milieu de cette obscurité ambiante, la prophétie est lumineuse, parce qu'elle nous entraîne vers les choses à venir. Elle confirme les choses qui sont passées, parce que ce sont des faits historiques, et puis elle nous entraîne vers l'avenir. Or, le monde sombre dans le désespoir, parce qu'il n'y a pas d'espoir. Aucun homme politique, aucun homme religieux ne peut donner de l'espoir. Il n'y a que la parole de Dieu. Et quand on entre dans cette parole, quand on a la connaissance de cette parole, il y a quelque chose de très fort qui s'inscrit au plus profond de nous-mêmes. Nous avons vu l'importance de la foi, mais aussi de la connaissance. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la connaissance. Ça demande un effort. Ça ne nous tombe pas dessus comme un miracle, la connaissance. La connaissance, c'est l'effort que je fais moi en tant que personne dans le libre choix qui est le mien d'aller à la rencontre de ces paroles prophétiques et de faire en sorte qu'elles fassent partie de mon être, de qui je suis. Et ça va pouvoir nous aider à traverser, à aller de l'avant et à tendre vers le but qui nous est donné. La prophétie est importante aussi parce que notre intelligence renouvelée en Christ peut aller à la rencontre de faits historiques. Vous savez tous, là je fais juste un petit résumé de ce qui a été dit pour ceux qui sont là pour la première fois peut-être. Vous savez tous qu'on est appelé à marcher par la foi, n'est-ce pas? Mais il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi et la connaissance sont indissociables. Si tu manques de connaissance, ta foi sera au chômage technique à un moment donné. Et ta foi, elle a pu s'appuyer sur la simple parole « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Quand j'ai lu cette parole pour la première fois, c'était une révélation. C'est mon intelligence qui est allée chercher cette parole. Et ma foi a dit, ouh, ça c'est pour moi. Tac! Elle s'est agrippée à ce verset et je suis entré dans le salut. Je vis le salut. Il est là. C'est une réalité. Donc, plus je nourris ma foi par la connaissance, plus j'aurai un équilibre en moi. Si la connaissance fait défaut, par la foi, je risquerai d'aller chercher plein de choses, des expériences, des choses que, voilà, des moments intenses. Mais ce n'est pas ça qui fait la vie chrétienne seulement. Il faut ce bon équilibre entre les deux. Et ma foi n'attend que à ce que mon intelligence aille faire l'effort d'aller chercher ces paroles dans l'Écriture. Et comme le temps devient de plus en plus obscur, et comme les grands politiciens de ce monde ne trouveront pas les bonnes réponses aux grandes questions existentielles, eh bien, nous pouvons aller à la rencontre de la parole de Dieu. Parce qu'elle nous parle déjà de demain. Elle nous dit ce qui va arriver demain. Elle nous parle de ce qui est arrivé avant, elle nous parle de ce qui va arriver demain. Donc on a vu que, notamment, bon, la prophétie touche l'ensemble des réalités de ce monde. On a vu dans un premier temps que, bien sûr, la plus grande partie des prophéties annonce la venue du Messie. Près de 300 prophéties annoncent la venue de Jésus. Et juste dans des détails invraisemblables. Et on a vu que la probabilité pour que ces choses se passent dans la vie d'un homme sont quasiment exclues. Si ce n'est pas Dieu qui accomplit ces choses-là, c'est impossible à un être humain d'accomplir même 8, 10, 15 ou 20 prophéties. Parce qu'il faudrait qu'il s'arrange avec, voilà, il s'arrange avec le soldat romain. Tu dis, attention, hein, tu vas bien avec ta lance, à un moment donné, tu vas percer mon côté droit, hein, jusqu'à, voilà. Non, c'est impensable. Donc, on voit qu'au travers de Jésus, qui a été déjà annoncé en Genèse 3,15, celui qui viendra écraser la tête du serpent, Jésus est venu. Et c'est pour ça que ça nous donne une grande stabilité, une grande sécurité intérieure de savoir, nous n'avons pas à attendre un nouveau Messie. Hein? Parce que dans les derniers temps, il est dit que certains diront, venez, il est là le Messie, un jour il sera là, un jour il sera là. Voilà. Nous, on sait qu'il est venu. Nous, on attend son retour. Donc, on a vu que ces prophéties s'étaient réalisées, il n'en reste plus beaucoup, il y a que celle de l'enlèvement de l'Église et de son retour. Donc, on est vraiment tout proche de la fin. Et puis, on a vu aussi que dimanche passé, à la fête de Pentecôte, en fait, que ce qui s'est passé à Jérusalem a été prophétisé par le prophète Joël. Qu'est-ce que Joël avait dit ? Près de 800 ans avant que ça se passe. Oh là ! Oh là, un petit coup de mou, là ! Pardon ? À la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, il envoie son esprit, mais sur les apôtres uniquement, n'est-ce pas ? Sur une élite, sur des gens qui sont au-dessus de la moyenne, non ? Sur qui alors ? Sur toute chair. Et ce jour-là, à Jérusalem, il y a plus de 30 nations qui sont représentées. Donc Dieu est maître de l'histoire, il sait exactement quand il faut accomplir les choses, à quel moment, pour que sa parole s'accomplisse. Joël a dit que dans les derniers temps, le Seigneur allait envoyer son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Et ça s'est produit à la Pentecôte, à cette Pentecôte-là, alors que personne ne s'y attendait. Alors qu'on était dans son train-train quotidien, religieux, monter à Jérusalem, accomplir les sacrifices, accomplir les commandements, Dieu nous surprend. Et on avait prié dimanche passé pour que Dieu nous surprenne aujourd'hui encore. Qu'on n'entre pas dans une espèce de routine chrétienne. Ce n'est pas possible la routine chrétienne. Si vous y êtes, vous n'êtes pas bien. Parce que la vie de Dieu, elle nous porte à vivre et à nous alimenter de ses hauts faits, de ce qu'il accomplit. On a vu aussi que Dieu ne se limitait pas au peuple d'Israël quand il prophétisait, mais que sa vision était tellement large qu'elle allait toucher l'ensemble des nations de la terre. Déjà au travers d'Abraham, Dieu avait dit, « Abraham, au travers de toi, je veux bénir toutes les nations de la terre, toutes, sans exception. » Parce que Dieu a une vision très large. Alors bien sûr qu'il va essayer d'utiliser Israël, parfois ça ira bien, parfois ça ira pas très bien, mais il va utiliser la descendance d'Abraham pour être porteur de cette bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et effectivement, aujourd'hui, toutes les nations de la terre sont touchées. Il y a plus de nations sur la surface de la terre qui n'aient d'une manière ou d'une autre pas entendu l'évangile. Et Dieu a aussi des prophéties, des oracles, des paroles inspirées pour les nations. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous sur une prophétie, parce qu'il y en aurait beaucoup. On pourrait prendre pas mal d'exemples, mais j'aimerais vous donner cet exemple parce qu'il rejoint à nouveau notre intelligence renouvelée. Quand je vais à la rencontre de cette prophétie, je peux la comprendre, je peux la saisir, je peux lire ces faits dans des livres qui ont été écrits, que j'ai là, pas seulement la Bible, mais d'autres livres qui ont été écrits à ce sujet. Je peux même aller à l'endroit où les choses se sont passées. Donc c'est mon être tout entier qui est en phase avec la prophétie, avec cette parole que Dieu a accomplie à un moment donné. Et ça, c'est quelque chose qui a une force, une puissance extraordinaire. Parce que imaginez un instant, si la plupart des prophéties ne se seraient pas réalisées, nous on serait un peu mal en tant que chrétiens, hein? Parce qu'on va dire aux gens, lisez la Bible c'est la vérité, Dieu parle, Dieu accomplit sa parole. Puis les gens disent, ouais, mais attends, là, il y a cette prophétie, mais elle ne s'est pas accomplie. Il y a cette prophétie, elle ne s'est pas accomplie. Qu'est-ce qu'on dirait ? On serait un petit peu décontenancé, n'est-ce pas ? Or, ce dont on va parler ce matin a l'air plus ou moins banal, parce que ça parle d'une ville, la ville de Tyr. Vous savez où se trouve Tyr ? Non, ben vous verrez. Au Liban actuel, hein ? Bravo, Jean-Luc. Et on va parler de cette ville parce que Dieu a prophétisé sur cette ville. À un moment donné, précis de l'histoire, Dieu va prophétiser sur cette ville. Alors on va projeter une première petite séquence, peut-être qu'on peut éteindre de ce côté-là, pour bien voir les images, pour situer Tyr. Où est Tyr? Qui est Tyr? Quel est le problème de Tyr? Comment est-ce que Dieu voit Tyr?
Selon Hérodote et les découvertes des
archéologues. Oui, c'est loin, c'est vrai.
C'était fondé vers 2700.
Voilà, on y est.
Jésus-Christ,
merci.
Une cité extrêmement ancienne qui a traversé les âges. Tyr fut dans l'Antiquité un port, d'abord établi sur le continent, puis déplacé sur un îlot rocheux, mieux protégé contre les envahisseurs. La partie continentale de la ville, en bord de mer, exista parallèlement au port sur l'île voisine. La Bible mentionne Tyr, vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, comme fournisseur de matériaux pour la construction du temple de Jérusalem par le roi Salomon. Au cours des deux siècles suivants, Tyr connut un essor considérable et devint le principal port de la Méditerranée au point d'être surnommé la Reine des Mers. Ses commerçants sillonnaient la Grande Bleue et atteignirent même les côtes atlantiques. Leur influence fut telle qu'ils fondèrent des comptoirs et des colonies sur le pourtour méditerranéen, parmi lesquels il faut citer la Grande Carthage fondée vers 815 avant Jésus-Christ. À cette époque, Tyr connut une grande prospérité économique grâce aux produits de ses colonies et à sa propre industrie, comme celle du verre et de la pourpre. Le rayonnement de Tyr fut également culturel et les commerçants tyriens, en même temps que leurs marchandises, répandirent l'alphabet phénicien, alphabet légué plus tard aux Grecs, origine de notre alphabet actuel. Tyr pratiquait assidûment divers cultes aux divinités. La Bible rapporte que 150 ans plus tard, une certaine Jézabel, fille du roi de Tyr, fortement engagée dans l'idolâtrie et la magie, épousa Akab, un roi corrompu d'Israël. Ensemble, ils incitèrent les Israélites à se détourner de Dieu, de l'Éternel et à pratiquer l'occultisme.
Tyr, un petit résumé sur la ville de Tyr. Ça nous permet de voir les choses telles que Dieu les voit, parce que voilà, Tyr est une ville parmi d'autres. C'est vrai qu'elle était extrêmement importante à son époque. Elle avait un pouvoir à son époque. Et sur cette ville, Dieu va prophétiser, parce qu'il y a les choses que l'homme voit, et puis il y a les choses que Dieu voit. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors on pourrait être impressionné par cette ville de Tyr. Aujourd'hui, on va où? On va peut-être à Paris, on va à Londres, on va à Shanghai, on va, je ne sais pas, au Qatar, pour voir ces immenses métropoles. Mais Dieu n'est pas tellement intéressé par ça. Ce que Dieu veut, c'est connaître le cœur des choses. Qu'est-ce qui se passe au cœur de cette cité? Et à un moment donné, Dieu va mettre en garde, il va annoncer des choses à cette ville de Tyr, qui encore une fois a son importance à cette époque-là. Et il va parler déjà au travers du prophète Ésaïe. Ça se situe aux environs de 700-740 environ. Et au travers du prophète Ésaïe, il va annoncer la destruction de Tyr. Il va leur dire, si vous continuez à accomplir ce que vous faites, vous allez avoir de gros problèmes. Et au chapitre 23, il est question de cette chute de Tyr, oracle sur Tyr. Lamentez-vous, navire de Tarsis, car elle est détruite, plus de maison, plus d'entrée. Je ne vais pas tout lire parce qu'il est assez long, là, l'oracle. Et il annonce que des Chaldéens vont venir, ces habitants du désert pour qui l'Assyrie a fondé un pays. Ils élèvent des tours, ils renversent les palais de Tyr, ils les mettent en ruine. Donc on est en 720 à peu près. Et Ésaïe proclame ça. Imaginez-vous ici, aujourd'hui, ce matin, quelqu'un parmi nous annonce un oracle sur Paris. Hein? Est-ce que les choses vont se passer? Est-ce que ce que l'Éternel a annoncé va s'accomplir? Quand Dieu pose un regard sur la ville de Tyr, qu'est-ce qu'il voit? On a eu quelques exemples ici, on ne va pas s'allonger là-dessus, mais bien sûr que c'est une ville importante au niveau de son commerce, son négoce. Des milliers de bateaux peut-être partaient depuis ces endroits-là pour amener toute cette marchandise tout autour de la Méditerranée. C'est vrai qu'ils ont transmis un alphabet qu'on utilise nous aujourd'hui après quelques petites transformations. C'est vrai qu'il y avait certaines richesses dans ce peuple. Mais la problématique principale de Tyr, c'était qu'elle était idolâtre. Et elle était orgueilleuse. Et ça, Dieu le voit aussi. Et Dieu ne peut pas laisser les choses aller de l'avant de cette manière-là. parce qu'il désire sauver Tyr, il désire parler au cœur de Tyr. Mais encore faut-il que Tyr écoute. Nous avons vu qu'une de ses représentantes, Jézabel, va avoir une influence incroyable sur le peuple d'Israël. Une seule personne. Elle marie le roi Akab, roi d'Israël, et tout Israël va entrer sous l'influence de l'idolâtrie, du paganisme, de la magie que Jézabel introduit. Donc on voit qu'une ville, comme une personne, peut transmettre des choses bonnes, mais peut transmettre aussi des choses qui sont en horreur à l'Éternel. Et Dieu avertit Tyr, déjà au travers du prophète Ésaïe, comme on l'a lu. Alors parfois, comme avec le bimère, il faut attendre un moment pour que ça marche. Il y a des temps et des moments, il y a des circonstances. Et Dieu est le maître des temps et des moments et des circonstances. Ce que Dieu veut, c'est transformer le cœur de Tyr. Et ce qui marque le cœur de Tyr, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, on le sait, est cette maladie, dans le fond, qui a atteint le cœur de l'humanité. Au travers de Satan, la parole de Dieu nous dit que l'homme s'est enorgueilli au point de dire « Ah oui, on pourrait être comme des dieux. On pourrait être à l'égal de Dieu. » On trouve plusieurs passages dans l'Écriture qui nous parlent de cette élévation de cet ange de lumière, Lucifer, qui a voulu monter au-delà de la montagne de Dieu. Et il en a été précipité à cause de son orgueil. Le problème, c'est qu'il a inoculé, en fait, dans l'ADN de l'humanité, cet orgueil. Et l'orgueil est quelque chose de terrible parce qu'il nous pousse à la rébellion vis-à-vis de Dieu, à l'insolence, il nous pousse aussi à l'arrogance, à l'hypocrisie. Et c'est cela que Dieu voit dans le cœur de cette ville. Et il les avertit. Dieu les avertit une première fois. Il est dit dans Exode, déjà, tout au début, Exode 34, 6, que Dieu est lent à la colère et qu'il est plein de bonté. Il est lent à la colère. Dieu va prendre le temps, il patiente, il avertit plutôt deux fois qu'une. Il dit les choses de manière claire avant d'intervenir d'une manière irrémédiable. À un moment donné, la parole qui était sur Tyr, eh bien, peut s'accomplir. Dieu ne joue pas avec nos vies. Dieu ne joue pas avec les nations. Rappelez-vous l'histoire de Ninive. Je m'arrêterai courtement sur l'histoire de Ninive. Mais vous rappelez Jonas qui est appelé à aller dans cette ville et à proclamer à cette ville que c'est le grand temps que cette ville se détourne de ses mauvaises voies et qu'elle vive. Que cette ville reconnaisse son état de péché. Et nous voyons dans le livre de Jonas que non seulement toute la ville va reconnaître son état, mais que le roi lui-même, le roi de Ninive, va reconnaître cet état de péché. Et ils vont s'humilier devant Dieu, et Dieu ne va pas détruire cette ville. Donc on voit, quand Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplit que si je n'obéis pas, si je ne me soumets pas à cette parole. Mais lorsque l'orgueil est là, vous le savez vous-même, je le sais moi-même, quand l'orgueil est là dans ma vie, elle est un obstacle infranchissable à la parole de Dieu. Il faut un cœur humble pour recevoir les choses de Dieu. Donc Tyr est averti. Il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, hein, mais il fait grâce aux humbles. Donc Dieu va résister. Tyr ne veut pas entendre, ne veut pas écouter, ne veut pas reconnaître son état. Dieu est obligé d'aller plus loin. Je me souviens d'un partage que j'avais eu avec un médecin de l'hôpital de Fribourg avec qui j'avais fait l'armée à l'époque, quand j'étais jeune, puis qu'il y avait une armée en Suisse. C'était étonnant, ce gars racontait plusieurs cas très difficiles qu'ils avaient dû prendre en charge à l'hôpital de Fribourg. Et il me disait, mais c'est terrible, on avait un homme, il est revenu, je ne sais pas combien de fois, il était alcoolique. Et on a tout essayé. On a essayé de le soigner. On est parvenu même à le guérir physiquement parlant, à ce qu'il aille mieux. On l'a encouragé à aller faire des cures. Il a fait plusieurs cures. Mais chaque année, le gars, il revenait à l'hôpital. Jusqu'au jour où, d'une manière inéluctable, on a été obligé de l'amputer d'une partie de son corps. Parce que l'alcool avait fait de tels effets dans son corps qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc il fallait intervenir de manière drastique. Et parfois, c'est ce qui se passe, que ce soit pour une ville, que ce soit pour une vie. Dieu est parfois obligé d'amputer. Il est obligé d'intervenir, pas parce qu'il veut, il veut nous punir, mais par amour, pour dire, mais tout ton corps va être touché par le péché, tout ton ADN, toute ta vie, tout... je suis obligé de couper des choses. Et parfois, ça fait mal, mais Dieu veut toujours couper pour guérir. Donc, Tyr en est là. Il a été averti et Dieu résiste aux orgueilleux. 200 ans plus tard, vous voyez comme Dieu est lent à la colère, hein? 200 ans plus tard, c'est au travers d'un deuxième prophète que Dieu va parler à cette ville de Tyr. On peut peut-être passer la séquence 2.
La cité côtière tomba et la première partie de la prophétie se réalisa. Mais Tyr, la partie insulaire avec son double port et sa flotte puissante, occupait une telle position stratégique et existait depuis si longtemps que rien ne pouvait faire cesser son influence. La prophétie semblait irréalisable. 10 années passèrent, puis 20, la prophétie tomba dans l'oubli. Un siècle entier passa, puis un second. Tyr régnait sur les mers, faisait du commerce, adorait ses dieux, dont le célèbre Héraclès, fils de Zeus. Avec sa puissante flotte, des marins expérimentés et la protection des hauts fonds et des murailles, Tyr semblait imprenable, tout comme Babylone.
Effectivement, Dieu va permettre que la première partie de la prophétie s'accomplisse au travers de l'armée babylonienne. C'est devenu l'empire dominant à ce moment-là, vers 580, par là autour, et les armées babyloniennes vont arriver sur la partie, vous avez vu, continentale de Tyr. Et il y aura un long siège qui va durer 13 ans, vous imaginez, 13 ans, avant que les armées babyloniennes puissent prendre d'assaut définitivement cette partie de la ville de Tyr. Ésaïe va dire, au chapitre 27, verset 25, dans sa prophétie, « Tu étais au comble de ta richesse et de la gloire. » Au chapitre 28, verset 2, « Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. » Vous rendez compte? Ils ont eu 200 ans pour réfléchir à la question. Mais à partir de ce moment-là, Dieu dit, « Maintenant, tu es arrivé à ton comble. Tu te prends pour Dieu. Tu imagines que tu es Dieu. Tellement tu es devenu puissant, tellement tu es devenu connu, tellement tu as de l'influence. » Et quelle influence, on l'a vu. Hein? Encore une fois, ce n'était pas seulement des sacs de blé et des olives, je ne sais pas, qui transportaient. Mais c'est aussi toute cette puissance d'occultisme que chaque navire transportait pour aller le diffuser dans les ports de la Méditerranée. Donc, trop, c'est trop. Et à un moment donné, Dieu intervient. Donc, dans un premier temps, on voit cette puissante armée babylonienne qui arrive. Ça dure quand même pas mal de temps, mais la partie donc insulaire va tomber, la partie continentale va tomber. Mais on voit que ça continue. On voit que les choses ne s'arrêtent pas. La parole de Dieu ne s'est pas accomplie jusque dans ses plus petits détails. Alors écoutez ce que cette parole nous dit de ce qui va se passer sur cette ville de Tyr. Parce que Dieu va juste dans les plus petits détails. On l'a vu aussi dans la vie de Jésus. C'est incroyable de voir combien Dieu est précis dans ce qu'il dit. Donc au chapitre 26, verset 7, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'amène du septentrion contre Tyr, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers, une grande multitude de peuples. Il tuera par l'épée les filles sur ton territoire, etc. etc., etc. Il foulera toutes tes rues. Avec les sabots et ses chevaux, il tuera ton peuple par l'épée et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs. » Bon, quasiment rien de nouveau, parce qu'à l'époque, c'est ce qui se passait quand un nouvel empire apparaissait et qu'il prenait et dominait en fait les contrées et les villes. On renversera tes maisons de plaisance. On jettera au milieu des eaux, écoutez bien ça, on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où l'on étendra les filets, tu ne seras plus rebâti, car moi l'Éternel j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Donc on voit que la prophétie s'est accomplie qu'à moitié. On aurait pu s'arrêter là puis se dire, bon ben voilà, Ézéchiel peut-être s'est un petit peu trompé, il a peut-être un peu divagué à un moment donné, il a écrit plus que ce que Dieu voulait l'amener à dire. Donc les choses vont continuer. Tyr va continuer de répandre, au travers de sa flotte incroyable, ses richesses. Et il faudra attendre encore une fois 200 ans pour que cette prophétie s'accomplisse d'une manière absolue. Les empires se succèdent, hein, vous connaissez l'histoire un peu des empires. À un moment donné se lève Alexandre le Grand, 330 environ avant Jésus-Christ. C'est l'armée grecque qui prend le pouvoir, une armée moderne pour l'époque, rapide, qui intervient rapidement avec beaucoup de ruses. Alexandre le Grand est un grand général, si on parle des choses de l'armée, et il veut soumettre le reste de Tyr, c'est-à-dire la zone insulaire, c'est-à-dire l'île. Vous avez vu, hein, qu'en face de Tyr continental, il y a la zone insulaire, c'est-à-dire une grande île dans laquelle se trouvaient les deux ports importants de cette ville de Tyr. Donc Alexandre le Grand se met en route avec son armée et il essaye par toutes sortes de moyens de prendre d'assaut cette île. Mais c'est difficile parce qu'elle est puissante, parce qu'elle a la capacité de se défendre. Et on a l'impression à un moment donné que cette prophétie-là ne s'accomplira jamais. Ce n'est pas possible. Personne n'y est parvenu jusqu'à ce jour. La prophétie semble vraiment irréalisable. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on va voir la troisième séquence maintenant qui vous montre ce que Alexandre le Grand va accomplir pour, sans le savoir, certainement, je ne pense pas qu'Alexandre le Grand était au courant de cette prophétie d'Ézéchiel, chapitre 26, mais regardez ce qui va se passer.
Alexandre eut alors une idée incroyable. Puisqu'il avait soumis la ville côtière, il donna l'ordre à son armée d'en abattre les bâtiments et d'utiliser les ruines, le matériau, le bois, les pierres et tout ce qu'il trouverait, de tout jeter à l'eau et d'en faire une digue jusqu'à l'île. Ce fut un travail de forçat. Il fallut jeter à la mer des tonnes de matériaux pour relier l'île à la terre par une digue de 800 mètres édifiée au milieu des eaux. Plus ils avançaient, plus l'eau était profonde et il leur fallait des tonnes et des tonnes de gravats que le courant disloquait aussitôt. Ce fut une guerre sans merci entre l'empereur grec et la reine des mers, combat de titans.
Qu'est-ce que la parole dit? Verset 12. « Et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. » Vous voyez, si je ne fais pas l'effort d'aller à la recherche de ces vérités-là, qui c'est qui savait ce qui s'était passé à Tyr parmi vous, honnêtement? Mais moi non plus, je ne savais pas à un moment donné. Donc, si je ne m'efforce pas d'aller à la rencontre de ces paroles de Dieu et dire « Waouh, ça s'est accompli !» Ça s'est réalisé. Je peux prendre aujourd'hui l'avion, partir bon, du côté du Liban actuellement, voilà. Mais je peux aller constater de visu ce qui s'est passé. Je peux poser le pied sur les ruines de Tyr. Et ça, je peux vous dire que ça renforce notre foi en la parole de Dieu, c'est-à-dire en Dieu lui-même. Dieu n'est pas homme pour mentir, dit la parole. Et quand on voit des choses comme ça se réaliser, c'est magnifique d'ailleurs aussi après les reportages qui sont faits là-dessus aujourd'hui, on a des moyens extraordinaires. Ça nous permet de remplir notre connaissance de ces faits. Je veux dire, oui, c'est fait. Waouh. Donc si Dieu a accompli toutes ses prophéties, y compris par rapport aux nations, il n'y a pas de raison que les dernières prophéties qui sont annoncées ne s'accomplissent pas. Et c'est pour ça que ma vie peut être ancrée avec foi, avec certitude, que Dieu accomplira jusqu'au bout ce qu'il a promis. Amen. Donc voilà, un petit exemple parmi nous. Alors je vais conclure, parce que je pense que cette simple histoire de Tyr doit nous parler à chacun de nous individuellement, même si ça concernait beaucoup de personnes à l'époque. On a vu que le problème majeur, et ça serait intéressant, mais je devrais développer plus longuement, parce qu'il y a aussi d'autres prophéties qui relient en fait ce qui se passe sur la terre au monde spirituel. À un moment donné, Ézéchiel parlera du prince de Tyr, et quelques temps plus tard dans sa prophétie, il parlera du roi de Tyr. Et on sait, et les théologiens le disent, que le prince de Tyr n'est que l'instrument, la marionnette dans le fond, d'un pouvoir spirituel, dans le monde spirituel, qui influence, qui domine la ville de Tyr. Et ça, la parole de Dieu nous le révèle aussi pour chacune de nos vies. On ne peut pas être suisse en tant que chrétien. On ne peut pas être neutre dans ce sens-là, vous comprenez ? Parce qu'il y a un monde spirituel qui existe, et on l'a bien compris aussi dans ce cours, dans ce séminaire Sozo, que j'ai beaucoup apprécié, je dois vous dire, très simple, très pratique, très précis. On sait que nos vies, à un moment donné, peuvent être, d'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou dans un autre, influencées par un monde qui nous dépasse. Hein? Je suis le prince de ma vie, on pourrait dire. C'est moi qui dirige ma vie. J'ai reçu le libre choix de la part de Dieu. Je peux me couronner, je peux dire « Ah, je suis beau, hein, je suis grand, je suis puissant, je suis un peu comme Dieu. » Mais je peux aussi être conscient qu'un monde spirituel cherche à dominer ma vie, à dominer mes pensées, à dominer ma façon de voir les choses, à dominer mon cœur, à dominer mes sentiments. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans notre monde. On croit dominer, mais on est dominé. Et on ne sait plus comment faire à un moment donné, parce qu'on croyait pouvoir jouer avec la chose. On était puissant, mais en fait on est faible. Et à un moment donné, les choses de ce monde, l'esprit de ce monde, prend le dessus sur ma vie. Et moi qui me croyais presque arrivé à l'état d'un dieu, je suis brutalement précipité de ma petite montagne. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons réaliser ce matin. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et le fait de pouvoir, en Jésus-Christ, trouver cette capacité d'humilité, c'est miraculeux. Parce que la nature humaine est orgueilleuse. Donc ça prouve que Dieu a transformé nos cœurs. Il nous a donné un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Et dans ce cœur de chair, il y a cet ADN de l'humilité qui était dans le cœur de Jésus. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert, alors qu'il était Dieu. Lui, il aurait pu dire, hey, stop les gars, hein, moi je suis Dieu, hein, vous êtes des petits humains, tout ça plat, hein, tout ça platit là. Non, Jésus est venu pour servir, il est venu il était un roi humble de cœur. Et c'est miraculeux de pouvoir se dire, ben, dans ce monde dans lequel je vis, je peux aussi vivre dans l'humilité, je peux apprendre l'humilité, je peux laisser l'humilité qui est là maintenant dans mon cœur nouveau, s'épanouir en moi. Et ça fait du bien de vivre dans l'humilité. Et on voit que Dieu donne toujours un avertissement, que ce soit pour une ville, un empire, ou ma petite vie à moi, mon petit empire à moi, il me donne toujours, à un moment donné, un choix. C'est moi qui finis par choisir soit la parole de Dieu, soit la parole des hommes, soit mes propres sentiments ou ma propre vision des choses. Et on l'a vu avec Ninive. C'est magnifique de voir une ville entière, son roi, se soumettre à la volonté de Dieu, accepter son état. Et on voit combien la grâce de Dieu ensuite va toucher tout ce peuple. Donc l'histoire est en marche. On ne va pas pouvoir l'arrêter. Personne ne va pouvoir arrêter l'histoire. Il y a l'histoire de Dieu, cette histoire que Dieu inscrit dans l'histoire des hommes. Des hommes rejoignent, quand je dis des hommes, hein, des êtres humains, des femmes, rejoignent cette histoire et d'autres continuent de s'y opposer. Et la parole de Dieu nous dit que par rapport à l'Église, par rapport au peuple de Dieu, en Osée 4:6, « Mon peuple périt ou est détruit ou est réduit au silence parce qu'il lui manque quoi ? Des expériences ? La connaissance. La connaissance. » La connaissance produit l'expérience, ce n'est pas l'expérience qui produit la connaissance. Or, nous sommes appelés à être un peuple prophétique. Dans ces derniers temps, Dieu veut lever un peuple prophétique, c'est-à-dire qui est capable d'annoncer. Imaginez donc un homme, hein, dans l'histoire, il y a 2800 ans en arrière, un homme que Dieu utilise, et les effets que ça va avoir dans l'histoire humaine. Alors imaginez si Dieu peut utiliser 100 hommes aujourd'hui, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard, on est combien de chrétiens, entre guillemets, dans ce monde? 2 milliards. Vous imaginez si 2 milliards de personnes se mettaient à prophétiser? Nous sommes un peuple prophétique. Personne d'autre que le peuple de Dieu, que l'Église, ne peut annoncer ces choses-là. Parce que seule l'Église connaît ces choses. Et il est dit, mon peuple périt, ou il est réduit au silence, parce qu'il lui manque la connaissance. Moi, je me souviens toujours au début, moi j'étais tout chaud, tout flamme, parce que je m'étais converti. Et puis j'avais envie de partager ça avec tous mes copains. Alors je m'arrangeais pour les rencontrer dans un bistrot, pour aller promener avec eux et tout. Et puis je commençais à raconter mon témoignage, parce que je racontais ce que j'avais vécu. Et puis ils ont commencé de me poser des questions. Et là, je ne faisais pas le malin, parce que je ne savais pas quoi leur répondre. Je pouvais leur dire ce que j'avais vécu, quelques bribes quand même du Nouveau Testament, parce que voilà, mais j'étais dans la nuit complète. Et on l'a vécu aussi quand on sortait dans la rue avec les jeunes, parce qu'on aimait aller dans les bistrots, on aimait aller dans la rue, se confronter aux gens, leur dire Jésus est vivant et tout. Et puis, c'était terrible par moments, parce que on était là devant la personne et on se disait, oula, je ne sais pas. Puis on avait l'impression d'avoir l'air bête. Mais on retournait au groupe de jeunes et on partageait. Puis on disait, à quelle question est-ce que tu n'as pas pu répondre? Puis on disait, on va faire une étude biblique là-dessus. À quelle question est-ce que tu n'as pas pu répondre? C'était ça. On va faire une étude biblique. Et c'est comme ça qu'on a grandi. C'est comme ça que notre foi a pu se bâtir sur une connaissance. Et je peux vous dire qu'on n'était pas réduit au silence. Satan aimerait nous réduire au silence. Alors il dit, mais écoute, ces histoires de prophéties, c'est pas tellement important, t'es sauvé, hein, c'est bien, ça suffit. Hein. Mais les gens, ils ont des questions dans le monde. Les gens, ils veulent recevoir des réponses claires et précises. Et quand vous allez à leur rencontre, bon, peut-être pas forcément avec ça tout au début, mais quand vous pouvez donner de bonnes réponses à de bonnes questions, ben, ça peut faire la différence. Hein. Alors, cessons d'être ignorants dans l'Église. Cessons d'être réduits au silence et grandissons dans cette connaissance. Mais ça demande encore une fois un effort. Alors, nous sommes la génération qui, à la suite d'Abraham et de toute sa descendance, portons dans nos valises les bénédictions de Dieu. Mais ouvrez votre valise, regardez les bénédictions qui sont déjà dans votre valise et transmettez-les plus loin. Imaginez si ça s'était arrêté avec Jacob. Imaginez si ça s'était arrêté avec David. Imaginez si ça s'était arrêté avec Jésus. Non, parce que des hommes et des femmes ont transporté cette bénédiction d'Abraham pour toutes les nations de la terre. Et des gens aujourd'hui payent de leur vie dans le monde pour continuer de faire avancer cette connaissance, cette bonne nouvelle. Alors soyons, frères et sœurs, ce peuple prophétique. Faisons tous nos efforts pour ajouter à notre foi la connaissance. Amen. Amen.